cette première conférence donnée à l'occasion du millénaire du début de la construction de l'église abbatiale du Mont-Saint-Michel. Le premier abbé du XIe siècle est Hildebert Ier, parce qu'il a eu un successeur qui était son neveu, Hildebert II. Et son prédécesseur, c'était le deuxième abbé du Mont, s'appelait Ménard II, parce que c'était le neveu du premier abbé, qui s'appelait Ménard I. Et Ménard II, selon le texte du De Abbatibus, c'est un texte que j'avais beaucoup utilisé, ce texte a été rédigé pour les premières pages de l'histoire du Mont, au milieu du XIIe siècle, par l'abbé Robert de Torigny. Donc c'est une source très précieuse pour nous et pour le sujet que j'ai à traiter aujourd'hui. J'aurais pu utiliser aussi les historiens du XVIIe siècle, dont Jean Huyne et dont Thomas Leroy, mais en fait, dont Jean Huyne et dont Thomas Leroy reprennent bien souvent ce que nous dit le De Abbatibus. Donc selon le De Abbatibus, Ménard II, éprouvant alors les atteintes du grand âge, aurait choisi Hildebert pour lui succéder en 1009. En fait, c'est ce que raconte le De Abbatibus. En fait, Hildebert a été désigné par le duc de Normandie, Richard II. C'est une époque où les ducs de Normandie affirment leur autorité sur cette partie de la Normandie, et ils ont invité tout au long du XIe siècle et leur successeur au XIIe siècle, ils ont invité les moines à voter pour le candidat qu'ils avaient choisi. Parce que théoriquement, selon la règle de Saint-Benoît, ce sont les moines qui élisent l'abbé, ce n'est pas un laïc, bien sûr. Donc il semble que Hildebert ait été désigné par le duc Richard II. Alors, il n'a pas construit grand-chose, Hildebert Ier, sans doute rien à notre connaissance, mais il s'est passé beaucoup de choses sous son abbatiat, qui a duré une quinzaine d'années, de 1009 à 1017. Tout d'abord, vers 1012, on a retrouvé le corps de Saint-Aubert, qu'un des chanoines, en 965, avait caché avant d'être chassé de l'abbaye. Vous le savez sans doute, on a retrouvé le corps de Saint-Aubert dans le grenier de la cellule qu'occupait, en 965, le chanoine Bernier. Et comment a-t-on retrouvé le corps de Saint-Aubert? En fait, durant la nuit, il y avait du bruit dans le grenier. Et donc, les moines ont fait un jeûne, et puis le bruit continuait. Et donc, ils ont fini par aller voir ce qu'il y avait dans le grenier, et ils ont trouvé les reliques, le corps de Saint-Aubert, qui était donc dans ce grenier depuis 965. À l'époque d'Hildebert, plusieurs miracles aussi se sont produits, miracles obtenus grâce à l'intercession, bien sûr, de l'archange Saint-Michel. Et le plus célèbre, vous le connaissez, c'est le miracle de la femme qui accoucha dans les grèves vers 1011, mettant au monde, au milieu des flots, alors que la mère l'entourait, un petit garçon qu'elle a surnommé Péril. Bon, je suppose qu'il avait un autre prénom, plus catholique, parce que ce petit Péril est devenu prêtre, et il a pris l'habitude de revenir tous les ans en pèlerinage au Mont-Saint-Michel. Et l'abbaye Hildebert avait fait construire une croix au milieu de la baie, à l'endroit où cette femme a mis au monde Péril. Alors cette croix, elle n'existe plus, bien sûr, elle a été emmenée par les marées. À l'époque d'Hildebert, il y avait déjà des constructions sur le Mont-Saint-Michel, et notamment la petite église Notre-Dame-sous-Terre, qui se trouve à l'ouest de la pointe du Rocher, sur un léger une petite terrasse qui est à l'ouest de la pointe du Rocher, et cette église dédiée à Notre-Dame, comme vous le voyez, est un édifice à deux nefs, un édifice dont on sait aujourd'hui qu'il a été construit au milieu du Xe siècle. Regardez les murs, ils sont constitués de pierres grossièrement équarries, les arcs sont en briques plates, et c'est tout à fait significatif des constructions de cette époque. Et les deux nefs se terminent du côté est par deux sanctuaires qui sont adossés au rocher, sanctuaire dédié à gauche, c'est-à-dire au nord, à la Vierge Marie, et au sud, c'est-à-dire à droite, la Sainte Trinité. Et ce sanctuaire d'ailleurs est extrêmement intéressant parce qu'il a sans doute été construit à l'emplacement du sanctuaire construit par Saint Aubert. Il y a une tradition qui remonte au moins au XVIIe siècle, c'est ce que racontent les moines mauristes du XVIIe siècle dont je vous ai déjà parlé, dans Jean Huyne et dans Thomas Leroy. Ils nous affirment qu'au XVIIe siècle, dans le sanctuaire de droite, donc au sud, se trouvait encore l'autel sur lequel Saint Aubert avait officié. Et les moines du XVIIe ajoutent qu'il était quoi qu'à moitié démoli, donc il n'était plus en très bon état. Vous voyez, au XVIIe siècle, on pensait que ce sanctuaire, et on pense toujours que ce sanctuaire a remplacé celui de Saint Aubert. Alors, il y avait aussi au sommet du rocher, vous voyez sur ce plan, réalisé par l'architecte Paul Goux au début du XXe siècle, Notre-Dame sous terre, c'est ce qui est en noir, et dans le prolongement de Notre-Dame sous terre vers l'est, au sommet du rocher, il y avait une autre église qui était sans doute l'église abbatiale. Notre-Dame sous terre, c'était sans doute l'église des pèlerins, et l'église abbatiale, c'était une église un peu plus grande qui était au sommet du rocher avec un chœur plus étroit, comme on le faisait d'ailleurs à cette époque dans les églises construites au Xe siècle. Mais malheureusement, de cette église, il ne reste rien aujourd'hui. Paul Goux a réalisé le plan de cette église parce que, en faisant des travaux dans la nef de l'église abbatiale, vers 1905-1908, il a retrouvé les murs de cet édifice. Et si vous allez aujourd'hui dans l'église abbatiale, vous verrez les traces de ces murs qui figurent sur le sol par des traits rouges. Voilà ce que ça donne sur une maquette qu'on présente aujourd'hui dans l'abbaye. Il y avait certainement d'autres constructions, mais sur cette maquette, on a représenté que Notre-Dame sous terre à gauche et l'église abbatiale du Xe siècle au sommet du rocher. Il y avait d'autres constructions, bien sûr, pour loger les moines qui étaient sur le mont depuis 965. Voilà, à la mort d'Hildebert Ier en 1017, son neveu, Hildebert II, a été choisi par Richard II pour lui succéder. Celui-ci a été le premier grand abbé bâtisseur du XIe siècle. Le De Abbatibus, dont je vous ai déjà parlé, nous rapporte en effet que la nouvelle église du bienheureux Michel fut commencée en 1023 par le duc Richard II, qui n'a sans doute pas fait grand-chose, peut-être a-t-il donné de l'argent, mais bon, on lui attribue un très grand rôle, le duc Richard II et par Hildebert II. Et dont Jean Huyne, au XVIIe siècle, dans son Histoire générale de l'abbaye de Mont-Saint-Michel, confirme cette information. Il contribua beaucoup avec Richard II, duc des Normands, à commencer de faire bâtir l'église de ce monastère de la grandeur qu'on la voit jusqu'à ce qu'il mourût en ce mont en 1023. Donc, Hildebert II construit l'église à partir de 1023 et il meurt en 1023. Donc, vous imaginez bien qu'il n'a sans doute pas fait grand-chose, mais il a pris au moins la décision de construire cette église. Pourquoi construire une nouvelle église au XIe siècle? Il y a sans doute plusieurs raisons. D'abord, en 1996, il y a eu un incendie, et donc les bâtiments, Notre-Dame sous terre et l'autre église qui n'existe plus, avaient sans doute été endommagés. Mais ils avaient été, ces bâtiments avaient été restaurés, bien sûr, mais ils avaient sans doute été assez endommagés, et il était nécessaire de construire des bâtiments plus importants. D'autant que, à cette époque, il y a sans doute eu un accroissement des pèlerinages. Pourquoi un afflux supplémentaire du pèlerin? Eh bien, vers l'an 1000, le chroniqueur célèbre, ce chroniqueur moine bourguignon, Raoul Glaber, a écrit que le mont faisait partie l'objet de la vénération du monde entier. Bon, sans doute exagère-t-il beaucoup, mais c'est très flatteur pour le mont. Mais il veut dire par là qu'il y avait certainement beaucoup de pèlerins au Mont-Saint-Michel. Et puis, à cette époque, les chemins de pèlerinage menant vers le mont existent déjà. En 1025, dans un diplôme du duc Richard II, ces chemins menant vers le mont, les chemins montés, comme on les appelait, ou les via montana en latin, la via montana, la voie du mont, ces chemins sont déjà cités dans un texte écrit. Donc, dès 1025, c'est-à-dire à peu près un siècle avant qu'on ne cite dans un texte écrit les chemins de Saint-Jacques. Et puis, les miracles se sont multipliés au XIe siècle. Je vous ai déjà cité le miracle de la femme qui accouche dans la grève. Et en faisant un peu de publicité autour de ces miracles, eh bien, on faisait connaître le sanctuaire et on incitait les pèlerins à venir se placer sous la protection de l'archange Saint-Michel. Et puis surtout, il y a eu aussi, enfin, un accroissement du nombre des moines. Les bénédictins, en 965, sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils étaient une douzaine, sans doute. Mais au début du XIe siècle, ils étaient 50. Donc c'était déjà un chiffre relativement important. Et comment sait-on que les moines étaient 50 à cette époque? Eh bien, on a l'information dans un sacramentaire qui a sans doute été écrit en Angleterre pour l'abbaye de Fleury. L'abbaye de Fleury, c'est l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, qui est toujours une abbaye vivante aujourd'hui. Et ce manuscrit est passé par le Mont Saint-Michel, et les moines du Mont en ont profité pour mettre le nom des moines vivants de la communauté montoise et le nom des moines décédés, afin que les moines de Fleury prient pour eux. Et donc, on a donc, au début du XIe siècle, la liste des moines vivants du Mont Saint-Michel, et on sait qu'ils étaient alors 50, donc c'était une très belle communauté. Et dernière raison, le duc Richard II avait un attachement particulier pour le Mont Saint-Michel, car c'est au Mont, dans l'abbaye, qu'il s'est marié, peu de temps après l'an 1000, avec une princesse bretonne qui s'appelait Judith, et le jour, c'était la sœur du duc de Bretagne, Geoffroy, et le même jour, la sœur de Richard II a épousé le duc de Bretagne, Geoffroy. Donc deux mariages le même jour dans l'église du Mont Saint-Michel, et on s'était sans doute aperçu que l'église était trop petite. C'est assez notable de noter ces mariages, c'est très très rare qu'on puisse se marier dans une abbaye. Ce n'est pas le rôle des moines que de donner le sacrement du mariage. La donation des îles granitiques de Chausey à l'abbaye du Mont vers 1022-1026 par le duc Richard II permettait aussi aux moines d'être assurés d'avoir les matériaux nécessaires à la construction. Mais je vous l'ai déjà dit, Hildebert mourant en 1023, naguère eu le temps d'avancer le chantier d'église. On peut supposer qu'il a lancé la construction en faisant tracer les fondations du cœur. Son successeur, Suppôt, nommé par le duc de Normandie, était un Romain qui était devenu abbé de Fruttuaria, une abbaye italienne fondée par Guillaume de Volpiano. Guillaume de Volpiano qui, à cette époque, était abbé de Fécamp. Placé à la tête du Mont-Saint-Michel par Richard II, Suppôt ne s'entendit pas avec les moines et il préféra repartir du mont sans tarder. Donc, Suppôt a été abbé du Mont-Saint-Michel en 1023, quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas, mais il n'a sans doute pas eu le temps de faire quoi que ce soit pour l'église abbatiale. Le duc Richard II fit alors appel à Thierry, qui était abbé de Jumièges sur les bords de la Seine, pas très loin de l'abbaye de Saint-Mandry. C'est sur les bords de la Seine entre Rouen et Le Havre. Et Thierry était aussi gardien de l'abbaye de Bernay, qui dépendait alors de l'abbaye de Fécamp. Les moines du mont n'ont pas accepté Thierry, qui devait se partager entre trois monastères, donc entre Jumièges, entre Le Mont, entre Bernay. Et ils n'ont pas accepté parce que Thierry était sans doute envoyé au mont pour mettre le sanctuaire de Saint-Michel sous l'autorité de l'abbé de Fécamp, Guillaume de Volpiano. Thierry s'est finalement découragé et il est reparti à Jumièges en 1027. Donc son abbatiat n'a pas été très long, mais je pense qu'il a été très important et je pense que c'est grâce à Thierry que le plan du cœur roman avait un déambulatoire et j'y reviendrai dans quelques instants. Le nouveau duc de Normandie, Robert le Magnifique, nomma alors Aumaude, un moine d'origine mancelle, mais il le déplaça assez vite pour qu'il prenne en charge l'abbaye de Cerisy-la-Forêt, qu'il venait de fonder. Donc on peut penser qu'Aumaude n'a pas eu le temps de faire grand-chose pour le chantier d'église. Et après le départ d'Aumaude, Robert le Magnifique a rappelé Suppôt au Mont-Saint-Michel en 1033, et Suppôt a été abbé du Mont pendant une quinzaine d'années, et il a eu le temps sans doute de faire beaucoup de choses. C'était un homme très cultivé, et le De Abbatibus nous dit qu'il fit déposer des livres et d'autres ornements, notamment un grand calice, une croix, deux anges argentés et de nombreux autres objets. Mais il entra en conflit avec les moines parce qu'il avait besoin d'argent et il a vendu un bien de l'abbaye, le moulin de Vins. Et plutôt que d'être en conflit avec les moines, il préféra repartir en Italie vers 1048. Mais entre 1033 et 1048, il a eu le temps de travailler et de travailler au chantier d'église. Le De Abbatibus nous précise qu'il contribua activement à la construction de l'église. Et on peut penser que c'est lui qui a fait édifier la plus grande partie du chœur roman et peut-être aussi les cryptes des deux bras du transept, Saint-Martin au sud et Notre-Dame des Trente Cierges au nord. Ce chœur roman, qui n'existe plus puisqu'il s'est effondré en 1421, ce chœur roman n'avait pas un plan bénédictin, qu'on dit parfois aussi normand parce que c'est le plan le plus habituel des églises abbatiales romanes de Normandie. Donc ce chœur n'avait pas un plan normand comme le pensaient les premiers architectes des monuments historiques du Mont-Saint-Michel, Édouard Corroyer et Paul Bou, mais il avait un plan avec un déambulatoire, ce qui est tout à fait logique dans une église de pèlerinage, parce que le déambulatoire permettait d'organiser des processions autour du chœur. Et en fait, ce chœur à déambulatoire, on l'a c'était celui qu'on trouvait dans, c'était celui des premières grandes églises romanes de Normandie, c'était celui de l'église de la cathédrale, la première cathédrale d'Avranches, la cathédrale romane d'Avranches, c'était celui de l'église abbatiale de Saint-Landry, l'église abbatiale romane, parce qu'elle était ensuite remplacée au XIIIe, XIVe par une église gothique. C'était celui de la cathédrale romane d'Ormont et celui de l'église abbatiale Notre-Dame de Jumièges. Alors voici deux plans. À gauche, c'est le plan supposé de l'église abbatiale. C'est un plan de Paul Gou, mais en fait, Corroyer a dessiné un plan identique. Vous voyez, le chœur était constitué de deux travées droites, se terminant par une abside, donc une chapelle semi-circulaire, et les deux travées droites étaient flanquées de pacotés. Eh bien, ce n'était pas cela, le chœur du Mont-Saint-Michel, c'était plutôt le chœur de droite. Le chœur de droite, c'est le plan du chœur de Jumièges. Vous voyez, donc, autour du chœur, il y avait des pacotés et un déambulatoire. On n'a pas de vue intérieure de ce chœur, mais on a une vue extérieure de ce chœur sur une miniature très précieuse des frères de Limbourg. C'est la magnifique miniature qui illustre la fête de Saint-Michel, donc le 29 septembre, dans les très riches heures du duc de Berry. C'est une miniature qui a permis à Germain Bazin, en 1933, d'affirmer que le chœur roman du Mont avait un déambulatoire. Voilà cette magnifique miniature très célèbre, mais je vous montre ici une gravure qui est réalisée à partir de cette miniature, et vous voyez, en regardant le chœur, on voit bien qu'il y a autour du chœur une partie tournante, et donc il y a un déambulatoire, et il y avait même une chapelle d'axe, mais qui n'était sans doute pas d'origine. Et regardez, entre le toit du chœur et le toit de la nef, il y a une grosse différence. Et donc, Germain Bazin, en examinant cette miniature, avait pu dire que le chœur était très surélevé par rapport à celui de la nef. On a retrouvé, tout à fait par hasard, en 1964, des vestiges du chœur, ou plutôt de la crypte, qui le soutenait en refaisant le carrelage du chœur gothique pour les fêtes du millénaire monastique de 1965-1966. C'était un autre millénaire, le millénaire de la venue des moines, en 1965-66. Et ces vestiges ont permis de confirmer donc, que le chœur avait un déambulatoire, et ce chœur avait aussi la particularité d'être surélevé de 3 mètres par rapport au niveau du chœur actuel, ce qui était assez extraordinaire. Et donc, on accédait au chœur roman par un escalier monumental, et le maître-autel dominait l'ensemble de l'église. Ce qui est normal, vous le savez peut-être, le mot « autel » vient du latin « altus », qui veut dire « élevé »,« haut ». Le maître-autel doit être élevé pour attirer tous les regards cassés sur l'autel qu'est célébré l'Eucharistie. Alors, je n'ai malheureusement pas de photos, parce qu'en 1964, je ne connaissais pas très bien le Mont-Saint-Michel. J'y étais venu une ou deux fois, mais je ne le connaissais pas très bien. Je suis arrivé pour mes premières visites de l'abbaye en 1965, et donc je n'ai pas pu prendre de photos de la découverte des vestiges de la crypte romane. Donc j'utilise des photos qui ne sont pas excellentes et qui ont été publiées dans un article. Voici des vestiges. Vous voyez la partie basse de la photo, ce sont les vestiges de la crypte avec une demi-colonne engagée. Et puis la partie supérieure de la photo, eh bien, c'est le chœur gothique. Et sur ce plan, vous voyez, on a tracé en noir tous les pans de mur qu'on a retrouvés. Donc on peut affirmer avec une certitude que ce cœur avait bien un déambulatoire. Alors, en fait, le plan du cœur était plutôt polygonal, et donc ce plan n'est pas très très exact, mais je vous le mets quand même pour vous montrer où se trouvaient les stalles des moines. Elles n'étaient pas dans le cœur proprement dit, mais elles étaient dans la croisée du transept. Et donc le cœur monastique se prolongeait jusqu'à la croisée du transept. Et ça, cela aura une importance pour la suite. Alors voici une tentative de reconstitution du cœur roman. C'est ce que on confiera sur les tablettes numériques aux visiteurs dans quelques temps à l'abbaye. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette restitution, car je pense qu'entre les grandes arcades et le niveau des fenêtres hautes, il y avait certainement une petite galerie, ou tout au moins un décor pour habiller le mur. Mais bon, c'est une restitution qui vous permet d'imaginer ce cœur. Et vous voyez derrière la balustrade qui est en bas, vous voyez les marches qui permettent d'accéder au sanctuaire. Je vous ai dit que Suppot avait certainement construit aussi les cryptes des bras du transept. Et voici la crypte qui porte le bras sud, la crypte dédiée à Saint-Martin, magnifique crypte des années 1040 sans doute. C'est l'architecture romane dans toute sa pureté, toute sa rudesse et toute sa puissance, me semble-t-il. Cette crypte est couverte d'une voûte en berceau plein cintre, d'une portée de 9 mètres, ce qui est assez spectaculaire, et c'est une prouesse technique, et cette voûte est renforcée par un grand arc doubleau. Et puis, du côté est, bien sûr, il y a une absidiole avec un autel qui a été reconstitué par Yves-Marie Froidevaux dans les années 1970. Et voici une tentative de reconstitution du décor avec des faux joints. Bon, c'est peut-être pas ça qu'il y avait, mais il faut imaginer que tous les murs des édifices romans étaient entièrement enduits et peints. Alors l'autre crypte, celle qui porte le bras nord du transept, est un petit peu différente. C'est la crypte Notre-Dame des Trente Cierges. C'est la crypte qu'occupent l'hiver les frères et sœurs de Jérusalem pour leurs offices. Et c'est une crypte un petit peu différente parce que vous voyez, entre l'arc doubleau qui soutient la voûte centrale, il n'y a pas une voûte en berceau, mais il y a des voûtes d'arêtes. Et sur l'arc doubleau, je ne sais pas si la photo sur l'ordinateur, je vois très bien, vous voyez peut-être un petit peu moins bien, vous avez des traces de joints peints et puis d'un petit décor qui est plutôt un décor des 12e, 13e siècle, donc un décor gothique. Voilà, donc Suppot part en 1048 et il a sans doute construit le cœur et peut-être les cryptes des deux bras du transept. Donc il a participé grandement à la construction de l'église abbatiale. Son successeur, Raoul, choisi par le duc Guillaume, qui n'était pas encore le conquérant, mais surnommé le bâtard, a été élu par les moines sur ordre de Guillaume, bien sûr. Raoul était moine de Fécamp, et il avait été aussi gardien de l'abbaye de Bernay. Selon Guillaume de Saint-Père, auteur du roman du Mont-Saint-Michel, Guillaume de Saint-Père était un moine à l'époque de Robert de Torigny, donc sans doute au milieu du XIIe siècle, et il a écrit un livre qui s'appelle Le roman du Mont-Saint-Michel. Ce n'est pas une histoire romancée du Mont-Saint-Michel, c'est le premier livre écrit non pas en latin, la langue des clercs, la langue des savants, la langue des érudits, mais en langue romane. C'est pour ça que ce livre est appelé le roman du Mont-Saint-Michel. En fait, c'est l'histoire du Mont-Saint-Michel en langue romane. Et donc, Guillaume de Saint-Père nous dit de Raoul, l'abbé Raoul, par simonie, munescientre, ut l'abbaye. Bon, c'est ça le roman. Bon, alors, la traduction en français d'aujourd'hui, l'abbé Raoul, à ma connaissance, une abbaye par simonie. C'est pas très très beau ça. En fait, il aurait payé pour être choisi par le duc afin d'être abbé du Mont-Saint-Michel. Si bien que la communauté était divisée. Certains moines d'ailleurs regrettaient le départ de Suppot, qui avait vendu un moulin, mais qui était un érudit, sans doute un bon moine. Vers 1050, quelques moines préférèrent partir plutôt que d'entrer en conflit avec leur abbé. L'un d'entre eux s'appelait Robert. Il est connu pour avoir écrit un commentaire du Cantique des Cantiques, qu'il n'a pas écrit sur ton blême, mais qu'il a écrit après son passage sur ton blême. Et donc Robert s'est installé avec cinq de jeunes moines qui étaient ses élèves sur le rocher de Tomblaine, où Anastase le Vénitien, donc un moine italien qui connaissait le grec, ce qui était très très rare à cette époque, et l'élève d'Anastase qui s'appelait Richard de Fourneau les rejoignirent bientôt. Donc sécession des intellectuels qui était sans doute grave pour l'abbaye. Mais l'abbaye supporta finalement ce choc, car les artistes, ceux qui enluminaient les manuscrits, sont restés. Alors vous pouvez imaginer ces moines vivant sur Tomblaine où il n'y avait pas de construction, donc ils vivaient dans des cabanes, ils ne sont pas restés très très longtemps d'ailleurs. Robert est allé ensuite près de Bayeux pour reprendre la tête d'une abbaye, et il est finalement revenu pour mourir au Mont-Saint-Michel. Et puis Anastase a fini sa carrière à Rome. Bon, donc Raoul n'était pas très très bien vu, mais il a tout de même, selon le De Abbatibus, œuvré énergiquement à la construction de l'église, élevant au-dessus du chœur les quatre piliers de la tour, et sur ces piliers, les arcs sur lesquels l'abbé Bernard fit par la suite édifier la tour. Raoul a donc fait construire les piliers de la croisée du transept où se trouvaient les stalles des moines. Je vous ai montré un plan où vous avez pu voir où étaient les stalles. Et il a sans doute construit, bien sûr, les deux bras du transept. Toujours selon le De Abbatibus, il fit fabriquer la cloche que l'on appelle la Rollonne afin de tenir les Bretons éloignés du territoire normand. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de Bretons ici. C'est pas très très gentil de croire que les Bretons avaient peur d'une cloche. Fut-elle très importante. Bon. Voilà donc une gravure ou une photo, je ne sais pas très bien. C'est un document que j'ai trouvé, qui m'appartient, et je ne sais pas si c'est une photo d'une gravure ou une véritable photo. En tout cas, c'est un cliché qui date des années 1865 et qui vous montre donc le chœur, mais aussi au premier plan, les piliers de la croisée du transept. Donc des piliers construits par Raoul. Et puis voici une photo un petit peu plus récente, elle est de 1875, photo prise par un frère de la communauté des missionnaires diocésains de Pontigny, les pères de Saint-Elme de Pontigny. Donc là, ce n'est pas un père, c'est un frère, François Bidet, qui était photographe et qui a fait beaucoup de clichés qui sont très 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 utiles pour nous. Vous voyez d'ailleurs en bas sa signature FB. Et vous voyez qu'entre les deux, bien, il y a eu un changement. Je ne sais pas à quelle époque, enfin, vers 1870, je pense, on a complètement couvert l'église d'un enduit granité qui cachait beaucoup de choses. Voici un dessin du bras sud du transept d'un magistrat qui était en poste à Rennes, mais qui était aussi assez bon dessinateur. Il s'appelait Alfred Ramé, originaire de Rouen. Et c'est un dessin à la mine de plomb, réalisé, je pense, vers 1855-1860. Je n'ai pas réussi à savoir exactement quand Alfred Ramé est venu au Mont-Saint-Michel. Il a surtout travaillé en Bretagne. Il a beaucoup dessiné des monuments bretons. Mais bon, quand on est en Bretagne, on n'est pas très très loin du Mont-Saint-Michel. Et donc, on peut faire des dessins du Mont sans problème, bien sûr. Vous apercevez dans le transept une petite construction qui a disparu aujourd'hui. En fait, c'était le tombeau de l'abbé Jean de la Porte, un tombeau du XIVe siècle qui a été démoli par les restaurateurs du Mont-Saint-Michel, soit Victor Petit-Grand, soit son successeur Paul Goux au début du XXe siècle. C'était un tombeau du XIVe siècle, mais on devait trouver que dans ce transept roman, cela n'allait pas très bien. Alors c'est une photo anonyme réalisée vers 1882-85 qui vous montre l'état du bras sud du transept avec la statue d'Archange Saint-Michel qui est aujourd'hui dans l'église paroissiale. Quelques années auparavant, on était dans le bras nord du transept. Et voici une carte postale qui vous montre le transept restauré par Paul Goux de 1902 à 1904, restauré avec beaucoup de vigueur, puisque Antime Chapeau et Adolphe Gless, qui étaient sculpteurs, ont refait 23 chapiteaux, c'est-à-dire qu'ils ont refait pratiquement tous les chapiteaux, ce qui est vraiment catastrophique. Mais il n'empêche que ce transept est encore beau. Regardez, toutes les fenêtres sont couvertes, sont entourés aussi d'arcs de décharge, et c'est vraiment très très beau. Et si j'ai utilisé une photo d'une carte postale, c'est parce que aujourd'hui on ne peut plus faire une photo du bras sud du transept, parce qu'il y a l'orgue Bechet de Bière qui a été construit en 1965 pour les fêtes du millénaire et qui cache notamment la partie du mur qui est à droite. Alors dans chaque bras du transept, il y a aussi une absidiole orientée. Et vous voyez comme tout ça est bien composé, l'arc d'entrée de l'absidiole et s'inscrit au-dessous d'un grand arc de décharge plein cintre qui occupe toute la profondeur du bras sud du transept. Alors voici une photo du bras nord avant sa restauration, c'est une photo de 1880. Vous voyez l'archange Saint-Michel qui est à droite et l'autel d'argent. Et voici donc une photo de ce bras sud, de ce bras nord, pardon, restauré par Paul Goux de 1902 à 1904. La voûte était sur le point de s'effondrer et elle a été reconstruite. Les sculpteurs Antime Chapeau et Adolphe Gless n'ont refait que 7 chapiteaux, donc il y a encore dans ce bras nord du transept plusieurs chapiteaux, quelques chapiteaux anciens, dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure. Voici l'image qui vous montre aussi l'absidiole, qui avait été détruite au XVIIe siècle et donc qui a été reconstituée lors des travaux de restauration de 1902-1904. Alors il ne reste plus que 10 chapiteaux anciens dans le transept, donc des chapiteaux du XIe siècle, 2 dans le bras sud et 8 dans le bras nord. Tous les autres ont été refaits soit à la fin du XIXe siècle lorsqu'on a reconstruit la croisée du transept, soit au début du XXe siècle lorsqu'on a restauré les deux bras du transept. Les chapiteaux anciens sont en pierre de Caen, ce qui a permis de réaliser des chapiteaux au décor très très fin. Et beaucoup représentent des feuilles d'acanthe plus ou moins stylisées en palmettes. Et je vous ai montré un petit dessin qui vous montre ce qu'est une palmette. Alors, en voici un qui est l'arc qui est dans un chapiteau de l'arc d'entrée de l'absidiole du bras nord, qui n'est pas en très bon état, malheureusement. Vous le voyez, c'est la partie supérieure, c'est un décor de palmettes. Et puis, au-dessous, ce sont des quadrupèdes, alors des lions, des agneaux, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on dit des quadrupèdes, qui tournent la tête. Voici d'autres chapiteaux du bras nord. Vous voyez, ce sont des chapiteaux qui s'apparentent aux chapiteaux corinthiens. Ceux-ci sont encore plus fins, je trouve, et plus proches du style corinthien. Et en voici un qui vient du bras sud. Donc c'est un chapiteau de la petite fenêtre de l'absidiole du bras sud. Ils sont beaucoup mieux conservés, leur décor est vraiment d'une très très grande finesse. Et puis, voici celui-ci. Vous apercevez à gauche une sorte de personnage avec des ailes. Je n'ai jamais pu prendre une échelle pour aller voir de plus près de quoi il s'agissait. Et puis, au milieu du chapiteau, vous avez une très jolie colombe. Je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas si... Oh non, compliqué. Non, je n'arrive pas. Si, regardez, là, c'est une très jolie colombe. Voilà. Donc, vers 1060, donc, Renouf, Raoul est mort, et il est mort au retour d'un voyage, d'un pèlerinage, pardon, un pèlerinage à Jérusalem, et Renouf, originaire du diocèse de Bayeux, lui a succédé, lui succéda. Renouf avait été confié enfant comme oblat à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, ce qui était fréquent à cette époque, des familles qui avaient beaucoup d'enfants confiés un de leurs garçons à une abbaye, ce qui permettait d'assurer son éducation, de le former intellectuellement, et bien souvent ce garçon devenait moine, ce qui a été le cas de Renouf ou Ranulf. Et il a été élu, bien sûr, avec l'assentiment du duc Guillaume le Bâtard. Le scriptorium a connu son apogée à cette époque. Je ne vais pas en dire, je ne vais pas beaucoup en parler parce que je suis devant Jean-Luc Le Cervoisier qui pourrait en parler bien mieux que moi. Mais bon, on a conservé une trentaine de manuscrits de la seconde moitié du XIe siècle et ils sont bien écrits et magnifiquement illustrés. Et c'est aussi sous l'abbatiat de Renouf que l'on situe traditionnellement la rédaction de l'introduction Monachorum, donc la rédaction d'un texte qui raconte l'installation des moines bénédictins en 965-966. Certains auteurs se demandent si ce n'est pas plutôt sous l'abbatiat de son successeur Roger Ier, mais ce n'est pas tellement notre sujet d'aujourd'hui. Voici un exemple d'enluminure de cette époque. Elle représente un débat entre saint Augustin à gauche et l'hérétique manichéen Faustus à droite, bien sûr. L'abbaye, à cette époque, était associée aux grands événements du duché de Normandie. En 1064, le duc Guillaume, menant une expédition contre le duc de Bretagne Conan II est passé avec son armée devant le mont Saint-Michel et la scène est représentée sur la tapisserie de Bayeux. C'est la plus ancienne représentation du mont que nous connaissions. Et vous voyez cette image avec le texte en latin que je vous traduis. Et ici, le duc Guillaume et son armée arrivèrent au mont Michel, qui est représenté de façon très simple, et nous verrons pourquoi ultérieurement. Et puis la suite, et ici, ils traversèrent le fleuve du Couesnon. Ici, le duc Harold, donc le Saxon Harold, tirait ses hommes hors du sable parce que certains soldats de Guillaume se sont enlisés dans le Couesnon. Ce sont des choses qui arrivent à des personnes qui connaissent très très bien la mer. J'en sais quelque chose. Après la victoire de Hastings, le 14 octobre 1066, Renouf mit six gros navires à la disposition de Guillaume le Conquérant, devenu roi d'Angleterre. On peut dire que les moines du Mont ont été très frileux. Ils n'ont guère soutenu Guillaume, mais une fois que Guillaume a été couronné roi d'Angleterre, ils l'ont soutenu. Et quatre moines faisaient partie du voyage, et ils sont devenus tous les quatre abbés de monastères anglais. Le prieur du Mont Saint-Michel, Ruault, devient abbé de Hilde. Le trésorier du Mont Scolian, abbé de Saint-Augustin de Canterbury. Serlon, abbé de Saint-Pierre de Gloucester, et Guillaume d'Agon, abbé de Serne. L'abbaye a aussi reçu des biens dont elle tirait des revenus, plusieurs prieurés, dont celui de Saint-Michel de Cornouailles qui en fait a été donné à l'abbaye du Mont-Saint-Michel avant la conquête de Guillaume. Et vous le savez, l'abbaye a conservé ses biens jusqu'au début du 15e siècle. En pleine guerre de Cent Ans, les Anglais ont confisqué tous ses biens, sans indemnité, bien sûr. Selon le De Abbatibus, Renouf était un grand bâtisseur. Il accomplit un très grand nombre de belles réalisations, à savoir la nef de l'église, une galerie, le cimetière des moines, le porche situé au-dessus, le mur qui entoure le cloître et la demeure des couturiers. C'est quand même amusant. Il y a des choses importantes, la nef de l'église, le cloître, mais la demeure des couturiers, ça l'est moins, mais bon. Afin d'édifier la nef, Renouf a dû modifier Notre-Dame sous terre pour soutenir les quatre premières travées de la nef. Et il a notamment prolongé Notre-Dame sous terre en construisant cette sorte de narthex, de vestibule, qui, par lequel on entre aujourd'hui dans Notre-Dame sous terre. Vous voyez, dans cette partie de Notre-Dame sous terre, les murs sont appareillés de pierres bien taillées, et puis il y a des arcs qui ne sont plus en briques, mais ce sont des claveaux de granit, il y a des joints assez épais, enfin bon, tout ça est très très caractéristique des constructions du XIe siècle, et là c'est plus vu de ce vestibule d'entrée vers le nord, et on voit les mêmes caractéristiques. Et ça a permis de construire au-dessus une nef romane qui était longue de 7 travées, qui n'en a plus aujourd'hui que 4, parce que les 3 premières travées ont été détruites à la fin du XVIIIe siècle. Voici une photo de Louis-Émile Durandel, prise vers 1875, qui vous montre donc les 4 travées subsistantes du XIe siècle. Alors, voici, ça c'est une photo contemporaine de ces 4 travées du XIe siècle. Et vous voyez, avec cette élévation caractéristique des grandes églises romanes de cette époque, grandes arcades communiquant avec des bas-côtés, baies de tribunes jumelées de petits arcs de décharge, et puis fenêtres hautes. Et vous le voyez sur ces murs, il y a des bandeaux de pierre horizontaux qui délimitent les trois niveaux et qui sont équilibrés par des demi-colonnes verticales qui partent du sol et qui reçoivent à leur sommet les entrées de la charpente. Car en Normandie, on ne construisait pas de voûte sur les grandes églises romanes, mais on laissait une charpente apparente, ce qui permettait d'édifier des édifices assez hauts, là ça fait 17 mètres de hauteur, et assez lumineux, avec de belles ouvertures. Caractéristique aussi, détail très très important dans ce mur, au-dessus des fenêtres hautes, il y a un grand arc, un arc de décharge, qui permet de reporter le poids des charpentes sur les piles des grandes arcades. C'est vraiment un très beau mur. Alors, dans ce mur, il reste finalement assez peu de chapiteaux anciens, parce qu'ils étaient très très abîmés, et la plupart des chapiteaux ont été refaits lors de la restauration par Paul Goux au début du XXe siècle. Vous apercevez dans... Là, c'est des photos que j'ai eu la chance de prendre dans les tribunes, à une époque où on était en train de refaire la toiture, donc on était dans les tribunes comme en plein jour. Aujourd'hui, aller faire des photos dans la tribune, c'est très très sombre et c'est finalement très très compliqué. Donc vous voyez le chapiteau du... Voilà, ce chapiteau-là, il est très très érodé, hein, il ne représente plus grand-chose. Là, on le retrouve là. En revanche, ici, vous avez des chapiteaux qui sont encore du XIe siècle. Voici ces chapiteaux, vous voyez. C'est un décor assez simple de motifs végétaux. Et en voici un autre, avec un tailloir orné de dents de scie. Il y a d'autres éléments du décor, mais je ne sais pas très bien où il faut les... à quelle partie de l'église il faut les rattacher. Et notamment cette magnifique base, avec un décor simulant une vannerie à entrelacs. Ou ce chapiteau qui fera partie de l'exposition qui va être présentée dans l'église abbatiale cet été, pour le millénaire du début de la construction, qui représente... un beau rinceau de feuillage. Je ne sais pas si ça vient du chœur, du transept ou de la nef. Et puis là, c'est dans une des réserves, dans un dépôt lapidaire de l'abbaye. C'est la base d'un chapiteau et ça représente sans doute les pattes d'aigle. Enfin, je suppose. Alors, cette église, je vous l'ai dit, elle n'a plus que, sa nef n'a plus que 4 travées sur 7. Donc, les 3 premières travées n'existent plus. Vous voyez, l'église s'arrête ici, aujourd'hui. Hein, ça, c'est le portail qui donne sur le Sogotier. Et extérieurement, les 3 premières travées étaient identiques aux autres. Intérieurement, je ne sais pas. Ça, c'est un dessin du XVIIIe siècle qui se trouve aux archives nationales. Et vous voyez, dans les 3 premières travées, on avait dû refaire les parties hautes. Car, vous voyez, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui, baies de tribune et fenêtres hautes. Mais là, ce dessin nous représente des grandes baies qui remplacent le niveau des tribunes et des fenêtres hautes. Je ne sais pas quand cela a été fait. Je ne sais pas tout. Heureusement d'ailleurs. Quant à la façade romane de l'église, eh ben, elle n'existait plus sur ce plan relief qui est aux Invalides. Vous avez une façade qui est plutôt du XVIe siècle, dans laquelle il n'y a plus grand-chose du XIe siècle. Alors la façade romane, elle, à l'origine, elle se trouvait ici, au niveau des 3 marches qui séparent la terrasse de l'ouest. Ça, c'est la façade qui a été construite à la fin du XVIIIe, après qu'on ait démoli les 3 premières travées de la nef. Et alors, en 1960, en faisant des travaux sur la terrasse de l'ouest, pour restaurer restaurer Notre-Dame sous terre et pour assurer l'étanchéité de Notre-Dame sous terre, on a retrouvé des bases romanes. Et ça, c'est une base que j'ai pu voir lorsque j'étais jeune conférencier. Vous voyez, j'avais demandé à ma femme de me prêter son mètre. Donc c'est une base qui fait à peu près 40 cm de côté. Et ce sont sans doute des éléments d'un porche qui précédait la façade, d'une sorte de narthex, qui a disparu sans doute au XIIe siècle, lorsque Robert de Torigny a accolé à la façade deux tours. Vous voyez, ça c'est le narthex de l'église Saint-Nicolas de Caen. Il faut imaginer peut-être une structure du même type contre la façade romane, avec un toit propre à cette construction. Et c'est peut-être ce que l'on représente sur la tapisserie de Bayeux. Vous voyez, ces trois arcades, eh bien, ce sont peut-être les trois arcades du narthex. Et puis ça, ce sont peut-être les côtés du narthex. C'est une supposition, bien sûr. Cet abbé a construit aussi, bien sûr, des bâtiments, et notamment contre la nef de l'église, un bâtiment à trois étages qui comprend de bas en haut la salle dite de l'Aquilon, qui était peut-être l'aumônerie de l'époque romane, le promenoir des moines, qui était peut-être le réfectoire, et puis le dortoir des moines, qui communiquait avec la nef de l'église, et qui communique toujours avec la nef de l'église. Je ne vous montre pas de photos de ce bâtiment qui a été très très modifié au XIIe siècle et qui ne fait pas à proprement parler partie de notre sujet. Le même abbé a construit aussi ensuite, accolé à ce bâtiment, un autre bâtiment plus petit qui comprend aussi trois niveaux, des latrines, sans doute une cuisine, au niveau du réfectoire, et puis au niveau du dortoir, une petite infirmerie pour isoler les moines qui étaient malades. Et puis, on lui doit sans doute aussi cet escalier nord-sud de l'abbaye romane qui a été modifié au XIIe siècle. Mais le mur qui est ici soutenait la façade romane de l'église abbatiale, donc c'est un mur du XIe siècle. Et puis il a sans doute accolé à cet escalier un petit bâtiment dont il reste une petite pièce ici et cette salle qui a été aménagée plus tard parce que sinon à l'origine c'était peut-être des portiques. Vous avez ici, n'est-ce pas, un grand arc qui a été bouché. Donc possible qu'on ait aménagé au XIIIe siècle dans ces portiques cette salle. Et on lui a donné, à la même époque, un décor de fleurs de lys. C'est pour cette raison que cette salle, qu'on a dégagée en 1980-84 à peu près, est appelée aujourd'hui salle des fleurs de lys. Et puis, le même abbé a aussi construit cet escalier qui mène au bas-côté sud de la nef et qui est toujours appelé l'escalier de Ranulf. Et vous vous souvenez, dans le texte du Hermatibus, on disait aussi qu'il avait construit le cimetière. C'est l'emplacement de la grande roue aujourd'hui. Et donc, sans doute, avait-il construit des grands portiques qui ont été modifiés. Ça a été modifié au XIIe siècle, puis ça a été modifié au XVIe siècle lorsqu'on a construit les grands degrés qui permettent d'accéder au sommetier. Et donc, c'est l'emplacement du cimetière. Et c'est sans doute Ranulf qui l'a aménagé à cet emplacement. À sa mort, à la mort de Renouf, donc, Guillaume le Conquérant mit à la tête de l'abbaye son propre chapelain, Roger, qui était moine de Saint-Étienne de Caen. À la mort de Guillaume, en 1087, l'abbaye a été impliquée dans la guerre civile opposant ses trois fils, le plus jeune, Henri Beauclerc, s'étant réfugié au Mont, a été assiégé en 1091 par ses frères, Robert Courteheuse, duc de Normandie, et Guillaume le Roux, roi d'Angleterre. Manquant d'eau douce, Henri en demanda à Robert, qui avec beaucoup de gentillesse lui fit parvenir de l'eau, mais aussi du vin. Désapprouvant ce geste de compassion, Guillaume leva le siège. Henri et Robert se réconcilièrent, pas pour très très longtemps. Puisque vous le savez, Henri Beauclerc, qui n'avait rien à cette époque, il est finalement devenu duc de Normandie et roi d'Angleterre. Donc il a éliminé ses deux frères. L'abbé Dumont, Roger, donc, a dû faire face à de graves problèmes de construction. Le mur nord de la nef de l'église s'écroula en partie vers 1090, et après avoir été restauré, il s'effondra à nouveau en 1103, écrasant la moitié du dortoir. C'était au plein milieu de la nuit, c'était aussi l'heure des vigiles, donc la plupart des moines étaient dans l'église, et il n'y a pas eu de mort. C'est un miracle, bien sûr. Il y avait quelques moines qui étaient au dortoir, ils avaient obtenu une dispense de ne pas assister aux vigiles, mais ils étaient bien sûr dans une partie du dortoir qui n'a pas été écrasée. À la suite d'un conflit avec les moines, Roger démissionna en 1106 et il devint abbé de Serne en Angleterre. Le duc de Normandie, Henri Ier Beauclerc, le remplaça au Mont par le prieur de Jumièges, Roger II. Le nouvel abbé a dû faire face en 1112 à un incendie qui endommagea les bâtiments. Il a sans doute endommagé surtout les couvertures, mais c'était très grave. Et puis il s'opposa aussi à un officier du duc. Et comme Henri Ier Beauclerc a donné raison à son officier, eh bien, l'abbé Dumont a été obligé de partir et il a été relégué en 1123 à Jumièges. Et le duc, roi, fit appel à Richard de Méré, un abbé indigne qui a finalement été déposé en 1128 et remplacé en 1131 par Bernard Dubec, un abbé tout à fait remarquable qui fit reconstruire le mur nord de la nef de l'église et édifier une tour sur la croisée du transept. Bon, je dépasse un petit peu mon sujet, mais je veux quand même vous dire, vous parler de l'ensemble de la construction de l'église romane. Alors voici donc le mur nord qui a été reconstruit par le mur nord de la nef qui a été reconstruit par Bernard Dubec. Et c'est un mur qui a aussi trois niveaux, mais qui n'a pas au-dessus des fenêtres hautes les arcs de décharge du mur sud. Les baies des tribunes sont plus fermées qu'au sud. En revanche, les fenêtres hautes sont plus ouvertes. Et puis, les arcs des grandes arcades sont déjà un petit peu brisés. Et dans les bas-côtés, les arcs qui doublent les voûtes sont carrément brisés. Donc, c'est un mur qui est assez différent du mur sud, mais comme il a la même élévation, ça s'harmonise assez bien. Voici une photo de ce mur avant sa restauration, vers 1080. Et voici un détail de ce mur, toujours avant sa restauration, vers 1888. Et vous voyez qu'à cette époque, l'ensemble de l'église avait été couverte d'un enduit granité et que beaucoup de chapiteaux avaient été refaits en plâtre. Beaucoup de chapiteaux avaient dû étaient sans doute en très mauvais état. Alors, il reste quand même dans le mur nord de la nef quelques beaux chapiteaux du XIIe siècle, et notamment ce chapiteau à entrelacs romans, avec la pierre est rouge. Et ça, ce sont sans doute les traces d'incendie, et notamment du dernier incendie qui a ravagé l'église en 1834. L'abbaye servait alors de prison, et l'administration pénitentiaire avait coupé la nef avec deux planchers de bois. Alors, quand il y a eu le feu dans l'église, bien sûr, les flammes ont été alimentées, le feu a été alimenté par tout ce bois. Alors voici un autre chapiteau du XIIe siècle qui a un décor très différent, un beau décor végétal les angles du chapiteau sont cassés. C'était sans doute des têtes de dragons qui mangeaient des rameaux de feuillage. Et puis en voici un, décoré de feuilles plates, des feuilles d'eau, et d'un masque très très plat. Et voici un chapiteau qui n'est plus lisible aujourd'hui parce qu'il a été vraiment rongé par le feu, rubéfié, cruellement rubéfié au 19e siècle. Et celui-ci n'a plus aucun décor, sans doute pour la même raison. J'ai eu la chance une fois de monter dans les tribunes du bras nord du transept et j'ai pu prendre cette photo. Vous voyez, le mur est vraiment tout rouge, sauf ce qui a été refait par les restaurateurs. Et ça, ce sont des traces de l'incendie du 19e siècle. Mais là, vous avez un chapiteau qui est orné de décors végétales et de gaudron, ce décor qui est très caractéristique des chapiteaux du début du 12e siècle. Donc il y a encore dans le mur nord un certain nombre de chapiteaux anciens, mais beaucoup de chapiteaux ont été refaits, et certains ont une certaine saveur, comme ce chapiteau de la tribune qui représente des quadrupèdes. Alors, est-ce des lions ou des bœufs? Ça ressemble plutôt à des bœufs qu'à des lions, mais bon, c'est pas très bien. Ce que voulait représenter le sculpteur. Bernard Dubec avait aussi mis des vitraux aux fenêtres de l'église abbatiale romane, et au 19e siècle, on a retrouvé quelques vestiges de ces vitraux du 12e siècle. Ces vitraux étaient conservés dans les réserves de l'abbaye, et ils ont été volés un jour, et ils sont maintenant dans une collection américaine, ce que je trouve proprement scandaleux, car les biens de l'État sont inaliénables, et même quand on les vole, bien, on doit les restituer. Bernard Dubec a aussi construit sur la croisée du transept une tour. Alors, une tour qui existait encore en partie sur cette photo prise entre 1872 et 1877 par Durandel, Louis-Émile Durandel, qui a beaucoup travaillé pour Édouard Corroyer. On voit encore la partie basse de la tour romane. Tout ça, c'est daté de l'époque. Et puis ça a été reconstruit au XVIIe siècle. Alors, la tour de Bernard Dubec, elle comprenait en fait un niveau octogonal comprenant quatre grands côtés et quatre tout petits côtés, et puis un niveau quadrangulaire qui reposait en encorbellement, sur ces petits encorbellements. Voilà donc un dessin réalisé par Victor Petitgrand qui a démonté tout ça pour reconstruire la tour actuelle. Voilà une évocation de ce que pouvait être la tour de croisée, voyez-vous, avec un niveau polygonal et un niveau supérieur plus large. C'est la petite tour de l'église Saint-Martin d'Octeville dans la banlieue de Cherbourg. Mais tout cela a été reconstruit par Victor Petitgrand à la fin du 19e siècle, et vous n'avez plus de vestiges de la tour romane aujourd'hui. Victor Petitgrand qui nous a quand même donné cette magnifique flèche néo-gothique qui est si élégante, je trouve. Voilà, je vais terminer sur cette image qui représente donc l'église abbatiale aujourd'hui. Vous voyez, il y a encore dans cette église des éléments importants du XIe siècle, les deux bras du transept, quatre travées du mur sud de la nef, tout le reste a été reconstruit, mais ce sont quand même le mur nord au XIIe siècle et le chœur après la guerre de Cent Ans, Mais ce sont quand même des éléments très importants de l'histoire de l'abbaye au XIe siècle.